Ribão.
Bonsoir et bienvenue dans Jazz, une émission vraiment spéciale aujourd'hui sur un nouveau disque, pas comme les autres, celui de Paolo Radoni, auquel il a participé en tant que compositeur, et c'est donc la tribu de Paolo Radoni qu'on reçoit ce soir. Brigitte Furnell, qui a bien connu forcément, puisque vous avez été l'épouse de Paolo, il y a à côté de moi, à ma droite, Paolo Loveri, qui est guitariste, ce qui n'aide pas les choses, puisque ce sont deux noms qui se ressemblent un peu, mais ce sont deux générations différentes quand même. Voilà, et puis Michel Herr, qui a fait la plupart des arrangements de ce disque. Alors Michel, c'est vers vous que le programme ira plus tôt aujourd'hui, et Paolo, puisqu'il est quasiment sur toutes les plages. Mais ce sont les arrangements que vous avez prodigués pour ce disque, avec beaucoup d'amour, je pense, qui vont être au centre de ce programme. Alors, cet amour, je dois dire que je le partage. On a fait beaucoup d'émissions avec Paolo. Il parlait volontiers du jazz. Il avait une rhétorique, une manière de s'exprimer et de l'humour qu'on apprécie beaucoup en radio. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Alors, première chose, ça va faire plaisir. Je lui offrirai à la fin de l'émission. Ça va faire plaisir à Brigitte, je pense. On va se reporter 10 ans en arrière. Ça se passe à Namur, dans un petit studio de la RTBF Namur. Assez tard le soir, Paolo était venu. Je vous l'avais pris encore un soir de plus. Comme si c'était déjà pas assez avec les concerts, il était venu faire une émission qui s'appelle Le Grand Jazz. Nous sommes en novembre 1999 et à cette époque-là, c'était les débuts des studios numériques et on avait une sorte d'ordinateur avec un écran qui permettait d'envoyer l'indicatif. Sauf que le technicien qui était, on va pas le citer parce qu'il travaille toujours dans la maison, le technicien qui était là ce soir-là, qui est un homme assez fort, qui joue de la basse électrique d'ailleurs, avec des doigts puissants, avait fichu en l'air l'écran tactile, le pauvre écran tactile, une fois de plus, et on n'a pas eu d'indicatif. Alors, qu'a fait Paolo ? Voici la réponse en musique. Jazz avec Philippe Baron. Bonsoir. L'indicatif est un peu spécial. L'émission le sera aussi. Il est joué en direct par Paolo Radoni. Paolo, venez vous asseoir près de nous. Alors ça, c'est plus possible, évidemment. C'était il y a 10 ans, et puis on a fait l'émission ensemble. Et dans cette émission, et puis après, on va parler de votre disque, hein, mais ça me fait plaisir quand même de vous partager ça avec vous. Dans cette émission, Paolo avait joué un morceau tout seul en direct. Mais pour du vrai, là. Pas un truc pour dépanner, parce qu'on avait cassé le matériel. Vraiment une pièce qu'il avait décidé de jouer ce soir-là, et qui est une reprise d'un morceau de Keith Jarrett. Je pense qu'il aimait beaucoup un disque en particulier de Keith Jarrett, que Pierre Vandermal a d'ailleurs réinterprété récemment. Un morceau qui s'appelle My Back Pages, seul à la guitare. Thank you. Au départ, c'est un morceau de Bob Dylan, et donc on écoutait cette version par Paolo. Alors Brigitte, vous connaissez bien évidemment le parcours de Paolo Radoni, et je pense qu'il avait commencé par la guitare rock, la guitare blues, la guitare folk, c'était ses racines au fond.
Oui, je pense qu'il avait commencé d'abord par des chansons italiennes, en famille, donc c'est une famille où je chantais beaucoup. Et puis après, il me racontait qu'il avait vraiment appris la musique à l'école européenne. Il avait un professeur de chorale qui faisait travailler et il a appris à chanter juste. Donc Paolo chantait vraiment très très bien. Et puis là, il a rencontré Dirk Hannegaarn et puis il a rencontré de plus en plus de musiciens, d'amis, Marc Hollander, Vincent Kenis, et puis il s'est mis de plus en plus au rock. Il a fait partie de Kleptomania.
C'est un bon groupe, puis, hein, ça. Blues rock, très efficace.
Très, très chouette.
C'est l'époque de la casquette et des cheveux longs, ça.
Oui, en fait, je ne connaissais pas trop à cette époque-là. Oui, mais c'est incroyable quand je vois ces photos avec des gens comme Danny Lademacher, Roger Wollaert, Wim Hombergen, qui sont restés ses amis jusqu'au bout. Et avec des longs, longs cheveux, une longue barbe, c'est extraordinaire. Je sais que mon frère l'a vu plusieurs fois jouer, notamment au Parc Josaphat. Et voilà. Et puis je crois qu'après, il a joué avec Arkham. Et puis petit à petit, je pense en côtoyant ceux des Lundis d'Hortense, qui était à cette époque-là encore une association très mixte avec des gens qui jouaient du folk son, de la chanson française, Bialik, des gens plus blues, des gens plus rock'n'roll, et les musiciens jazz. C'était une grande communauté. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a côtoyé de plus en plus des musiciens de jazz et qu'il s'est investi dedans.
On retrouve, parce que l'histoire de ce disque-ci, elle commence là, au moment où il s'intéresse plus au jazz. Et donc, il y a des disques qui sont vraiment des transitions. Il y a l'esprit du temps, évidemment. Michel Herr a bien connu ça aussi. Oui. Vous avez fait des disques de jazz électrique. Enfin, l'ambiance des années 70 était peut-être moins puriste. On n'avait pas les académies, il n'y avait pas le conservatoire, on apprenait sur le tas. D'ailleurs, Michel vous dit toujours, je suis autodidacte pour ce qui concerne l'arrangement, ce qui surprend tout le monde. On se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça seul. Et bien si, vous l'avez fait. Alors, Paolo était musicien dans différents groupes, et ces groupes se retrouvent dans des formules réarrangées sur ce disque-ci. Comment avez-vous fait ? Qui a fait la sélection ? Michel, je suppose, n'a pas accepté de faire l'arrangement de tous les morceaux qu'on aurait pu lui proposer, il a dû choisir un moment.
C'est un travail de groupe d'abord au départ, hein. C'est-à-dire que je crois que Brigitte avait envie d'avoir quelques morceaux bien précis, je crois qu'on était déjà d'accord sur la présence de ces morceaux. Et puis alors on a eu une réunion de l'équipe qui était destinée à enregistrer, et on a commencé à échanger des avis, faire un tri un peu plus serré, parce que l'idée c'était quand même de donner un éventail assez large des morceaux de Paolo, plutôt que de délirer dans les minutages très longs, de faire une sélection assez compacte d'une quinzaine de morceaux, je crois qu'on y est arrivé. Et voilà, chacun a mis son avis, et puis finalement j'ai fait des suggestions, puis j'ai dit ça je prends sur moi comme arrangement, les autres ont dit ça je le sens bien en duo. Ça se fait comme ça de manière assez démocratique, Paolo, je pense qu'on peut dire ça.
Oui, tout à fait, ça a été très naturel en fait, dans la façon de faire. Chacun, il a joué le morceau qu'il sentait, en fait. En écoutant, j'ai envie de jouer celui-là, celui-là, celui-là. Et chacun, il a choisi son morceau, en fait. En fonction de la sensibilité de chacun, en fait.
Alors, c'est évidemment le moment d'écouter le premier morceau. On va quand même en parler un tout petit peu. Il s'appelle Ricordo. Ça se rapporte à quelle époque, ça, Brigitte, Ricordo ?
Mais je pense que c'est un morceau plus ancien. Je ne sais pas exactement la date. Mais c'est un morceau qu'il avait, je crois, écrit en pensant à sa fille Naïma et à tous les souvenirs qui étaient liés à elle. Et donc,
Est-ce qu'elle parlait autant que sa sœur, Naïma ? Parce que vous m'avez dit la semaine dernière qu'il y en avait une qu'on ne pouvait plus arrêter dès qu'elle est sortie.
Ah oui, My Little Angel, oui. Naïma, elle parle bien, mais... Je crois qu'elle réfléchit plus entre chaque mot.
Ça fait rire tout le monde, ça. Distincte.
Oui, non. Je veux dire que le rythme est moins staccato chez Naïma. un peu plus piano, piano.
Donc ça a été écrit quand elle était petite, Ricordo.
Je ne sais pas exactement.
Je vais retrouver. Oui. On l'écoute, laissez-moi le temps de chercher dans mes archives et okay. Je vais vous retrouver ça. On écoute cette nouvelle version et ça, c'est arrangé par Michel. Donc avec, on rappelle les musiciens, on n'a pas encore dit, Gino Latuca, Ben Sluis, qui joue franchement le jeu. Hein, il ne joue pas du tout comme ça dans certains autres projets. Il a vraiment respecté l'ambiance. Paolo Loveri à la guitare, Charles Laws, Bart de Nolf et Bruno Castellucci.
Thank you.
Ça, c'est le charme de Paolo Radoni. On sentait qu'il s'était rapproché un peu, même fortement, de cette ambiance-là au fur et à mesure des années. Son passé rock était moins présent. Et puis, il y avait ce côté italien dont on a parlé. Je rappelle qu'on est avec Michel Herr, qui a fait l'arrangement de ce que l'on vient d'entendre. Brigitte Furnell, qui a vécu avec Paolo pendant des années. Et Paolo Loveri. Pas assez, encore plus, elle aurait voulu plus. Et Paolo Loveri, alors ça, on vient d'entendre le solo magnifique. Je pense que il aurait été approuvé par le chef.
Hein. Ah, ça, c'est sûr.
C'est, vous avez quand même une certaine communauté d'esprit. Vous aviez un groupe ensemble, si je me rappelle.
On avait un trio ensemble avec lui et Victor D'Agosta. On était deux ses élèves, en fait, d'une certaine façon. Il y a même un disque qui est sorti, en fait, un trio. Et aussi, je joue sur ce disque avec sa guitare, en plus.
Voilà. Je me disais, c'est bizarre, je n'ai pas osé poser la question, je me suis dit, je vais encore me ramasser, je vais avoir des ridicules une fois de plus. Donc c'est bien sa guitare.
C'est bien sa guitare, la toute dernière, hein, la toute dernière guitare.
Oui. Voilà, alors puisqu'on a le guitariste ici et qu'on sait que Paolo aimait parler guitare, voilà sa voix, il va nous parler de Jim Hall. Je vais poser des questions sur la guitare rock et un peu la guitare jazz. Et aussi, il va dire un truc assez génial, je trouve, sur le blues. La voix de Paolo Radoni.
Jim Hall est à la fois toujours présent, sans être envahissant. Je crois que c'est un peu la caractéristique de ce genre de groupe où, où la guitare, entre guillemets, a remplacé ou supplanté le piano. Et je sais que beaucoup de saxophonistes et de trompettistes aiment ce genre de formation parce que finalement, c'est un instrument qui peut donner les bases harmoniques et rythmiques nécessaires au groupe sans trop empiéter sur le domaine du souffleur. Sans doute moins qu'aura tendance à le faire un pianiste. Mais c'est vrai que ce n'est que quelques années plus tard que j'ai été vraiment capable d'assimiler sa conception de la musique et de comprendre, parce que c'est quelqu'un qui demande à être fréquenté. Hein,
écoutez, c'est simple, 62, c'est le début du succès des Beatles, les Rolling Stones sont au coin de la rue.
Oui, voilà.
Il y a une autre conception de la guitare qui déboule aussi, qui vient du blues et qui change tout en quelques années.
Enfin, qui change tout pour le jazz, mais je pense que tout ça a concouru à ce que la guitare est devenue maintenant. La guitare ne serait pas ce qu'elle est maintenant dans la musique actuelle, et je ne parle pas seulement de jazz, s'il n'y avait pas eu le blues, parce que c'est quand même dans le blues que la guitare a appris à chanter. Et donc, c'est un apport essentiel. Et d'ailleurs, Jim Hall, dans ce qu'on vient d'entendre, et je sais qu'il est très attaché à ces dimensions-là de la guitare et du jazz, a des riffs, comme ça, il utilise des riffs qui sont vraiment typiques de la musique des années 30, sauf que dans les années 30, c'était des riffs joués par les sections de cuivre dans les big bands. Et finalement, la même manière de travailler les riffs a été plus tard adaptée aussi et adoptée par les guitaristes dans les rythmiques de blues, de rhythm and blues, etc.
Les organistes.
Voilà. Et même, on entend même ça dans la manière dont les guitares jouent avec des chanteurs comme James Brown ou Marvin Gaye, etc. Et tout ça a concouru après à ce qu'il y ait aussi Hendrix, à ce qu'il y ait par la suite les guitaristes qu'on entend maintenant, qui tous, peu ou prou, sont fort marqués par ça. Je crois que si la guitare avait dû se limiter au jazz, on n'aurait peut-être pas avancé autant. Oui.
La voix de Paolo Radoni. Bon, alors évidemment, Paolo Loveri est un peu ému, et c'est normal, parce qu'il parle de l'instrument que vous jouez tous les deux, et puis il y a beaucoup de choses que vous partagez, cet amour de Jim Hall. Je sais que vous appréciez beaucoup Jim Hall.
J'apprécie Jim Hall, en fait, je passe. En fait, tous les guitaristes qu'on a quand même étudié, en fait, pendant le conservatoire, en fait. Mais Paolo, il était vraiment accro à Joe Pass, à Jim Hall, en fait. C'était vraiment le guitariste de référence, en fait, pour Paolo, à l'époque, je me souviens.
Alors, on va écouter Storie Vere, et là, je me souviens très bien quand Paolo est venu dans cette émission présenter Storie Vere. Il m'avait dit, j'ai quasiment été devant une bagarre avec Daniel Léon, qui était l'ingénieur du son et aussi l'homme d'Igloo, parce qu'il a joué le morceau qu'on va entendre, Storie Vere, donc Mariage à l'italienne, et c'est une très très belle version acoustique. À tel point belle que Daniel Léon lui dit « Écoute Paolo, c'est tellement réussi, je trouve que ce serait dommage de ne pas faire la même chose pour tous les autres morceaux de l'album. » Et Paolo était évidemment complètement renversé parce qu'il n'avait pas prévu ça du tout, les arrangements étaient faits pour la guitare électrique et il a tenu bon, il a dit « Non, je garde l'idée d'un album diversifié. N'empêche que Storie Vere, c'est une chanson magnifique et qu'il avait interprété magnifiquement. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose là-dedans de quasiment magique. Vous le connaissez tous, cette version. Qui a travaillé sur ce morceau-là pour l'arrangement qu'on va entendre?
Bah, c'était plus ou moins comme on jouait un trio de guitare. En fait, on a plus ou moins gardé sa structure, ses accords, en fait, et joué plus ou moins dans le style que Paolo jouait à l'époque. En fait, on jouait ces morceaux chaque concert. Et chaque fois, même en jam, même à la maison, quand on se retrouvait avec des guitares, bah, c'était ça qu'on jouait, parce qu'on adorait ce morceau. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment trouvé. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment un arrangement. En fait, j'ai donné les partitions en studio et j'ai dit à tout le monde, on fait une intro comme ça et après on joue. Voyons les résultats et on l'a gardé comme ça. En fait.
Castor et Vert et avec la tribu de Paolo Radoni. Radoni's Tribe, c'est le titre, c'est le nom de ce groupe, qui est un vrai groupe puisque vous allez jouer en concert bientôt au Sounds.
Au Sounds, vendredi. Ce vendredi, c'est la présentation du disque.
Avec les mêmes musiciens. Il y aura même deux bassistes, si j'ai bien compris.
Oui.
Puisqu'il y a certains morceaux qui se font avec votre frère, hein, Brigitte.
Alexandre Furnel.
Ouais, oui, voilà.
Et donc, quatre morceaux,
on n'écoutera pas tout aujourd'hui, c'est impossible. Je signale quand même qu'il y a un très beau livret et que pour illustrer Storie Vere, on a droit à l'actrice en porte-jartel sur la page de droite.
Sophia Loren. Hein.
Oui, était
c'est
un
Sophia
choix.
Sophia Loren qui était une femme que Paolo trouvait vraiment merveilleusement belle et qui joue dans Matrimonio all'Italiano, qui fait des crises extraordinaires à l'italienne avec Marcello Mastroianni. C'est un beau film.
Mais Paolo n'était pas comme ça, il n'était pas explosif. Moi, je l'ai toujours connu plein d'humour. Et, enfin, mais je ne dis pas qu'il n'avait pas un caractère.
Non, c'était quelqu'un de très philosophe, de très calme, de très posé, de très réfléchi.
C'est cette ambiance-là que ce disque suggère, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, si ça a été décidé d'aller plutôt vers les ballades. Et
ces compositions étaient en majorité, quand même, on peut le dire, orientées de ce côté-là. Les bossas, les ballades. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de morceaux rapides sur le disque, mais je crois que c'est de cette nature profonde d'aller vers ce genre d'ambiance.
Il n'y a pas de compétition entre les différents solistes. Tout le monde est au service du projet. Et d'autant plus que l'arrangeur, j'imagine, était en studio pour surveiller la chose.
Ah oui, c'était partie de mon boulot. J'étais derrière la vitre et puis j'ai fait le mixage après aussi.
Et c'est ce qui manque, je l'ai dit mille fois dans cette émission, c'est ce qui manque parfois en Belgique, c'est avoir un producteur d'une certaine manière. Et dans ce cas-ci, qui est aussi l'arrangeur. Donc situation idéale pour que le projet soit cohérent. Et je pense qu'il l'est. Alors nous allons entendre... Comment on prononce ça, Brigitte? Levante, ça se prononce comme ça ou
oui,
bien...
tout à fait, oui, parfait.
Levante, oui.
Et c'est quoi exactement? Parlez-nous un peu de ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui a pu inspirer pour donner ce titre-là? Qu'est-ce qui a pu
oh là,
inspirer
vous me posez Paolo? Une colle, là, je ne sais
ah, mais
pas
vous êtes
trop
là pour
bien.
Ça, hein, parce que ça, c'est un vieux morceau, je pense que vous ne connaissiez pas forcément
Paolo. Oui,
mais
Paolo. Je ne connais pas tout. Oui. Levante, dites-moi.
C'était en 81. Le premier enregistrement connu de Levante, c'était en 81, en trio. Je pense que c'était ce disque où il avait cette rythmique avec des noms incroyables. Il y a un type qui s'appelait Ernst Beer.
Oui, c'est cette époque-là où il travaillait avec Rudi Schröder et Ernst Beer. Et donc, il travaillait et tournait beaucoup en Allemagne. Et oui, il avait fait un disque avec
Funny
une sonorité, oui, Funny Way. Une sonorité vraiment très nouvelle et très fusion comme ça. Et vraiment, oui, je me souviens tout à fait. Il a tourné longtemps en Allemagne à cette époque-là. Il avait pas mal de succès.
Il disait toujours ce nom avec beaucoup, avec un grand sourire. J'avais Ernst Beer, musicien allemand. Et bon, il avait fait tout un numéro dans une émission. On s'était assez bien amusé. Alors, je pense que ça va être assez différent, arrangé par Michel. Parce qu'on a les souffleurs, là, Gino Latuca, Ben Snoyce. C'est vrai que Gino Latuca, il se cache quand il réécoute ses improvisations en studio, il est toujours un peu honteux.
Oui, il est assez exigeant, peut-être jamais content de lui-même, mais on le rassure, et à bon droit, parce qu'il joue très très bien quand même, il faut le dire. Je voulais juste dire une petite chose sur Levante, et je trouve que c'est un des morceaux qui, dans l'album, prend une direction un peu plus ouverte, moins d'accord, hein, plutôt modal, donc c'est un petit peu un aspect de Paolo qu'il ne faut pas négliger, c'est quelqu'un qui aimait bien se frotter aussi à des expériences plus modernes et plus ouvertes.
Mais qu'il faisait peut-être plus avec bonheur la mélodie, il était très centré sur la mélodie, je trouve que simplement l'improvisation débridée, ce qu'il faisait aussi, mais je trouve que ses grandes réussites sont peut-être plus dans ce côté orfèvre qu'il avait, parce que quand on lui donnait l'occasion de travailler une pièce pour un concert ou pour un enregistrement, j'ai l'impression, et ça Brigitte pourrait peut-être nous le dire, j'ai l'impression qu'il y pensait longtemps et qu'il remettait souvent la chose...
Le métier sur l'ouvrage, voilà. Où il travaillait énormément à la maison, ses improvisations, et les gammes, il travaillait énormément la guitare, et je me souviens aussi qu'il travaillait très fort les compositions, quoi. Je le voyais avec des partitions énormes, avec 8 instruments. J'ai dit, mais en fait, comment tu parviens avec... Et alors, impossible, il ne voulait pas travailler à l'ordinateur, il travaillait uniquement avec un crayon et une gomme. Les portées en même temps. Et j'étais vraiment sidérée. Comment tu travailles? Il dit, j'entends tout, quoi. Et il travaillait, et il était là avec sa gomme, et vraiment, note par note, n'était pas content, il reprenait, il effaçait, il remettait une autre note. C'était un travail...
C'est lui qui a une petite partie de ce qu'on a trouvé dans cette boîte rouge qui a voyagé dans la Belgique. En fait. Il y a plein de morceaux encore.
Il a fait beaucoup d'arrangements.
Énormément d'arrangements, mais énormément de compositions. Chose qui n'est pas très connue de la part de Paolo, en fait.
Parfois, pour un seul concert, il faisait un arrangement et puis on n'entendait plus jamais cette musique.
Oui. Il y a beaucoup de morceaux, en fait, dans cette boîte.
Il y en a 60, certainement.
Oui, oui, des choses qui resteront peut-être là, peut-être dans 10, 15 jours, on fera sa musique.
Si celui-ci fonctionne bien, je pense que ça dépend du public, hein, mais s'il est bien reçu, ce serait intéressant effectivement de continuer cette aventure-là. On écoute cette nouvelle version de Levante, composition Paolo Radoni, arrangement Michel Herr, avec aujourd'hui notre invité Paolo Loveri à la guitare et puis Gino Natuca, Ben Sluis. Spéciale autour de la présentation du disque de la Paolo Radoni Stribe, qui joue donc en concert ce vendredi au Sounds. C'est normal que ce soit au Sounds, hein. C'est quand même un peu le rendez-vous italien de Bruxelles, ça. Il y a joué assez souvent aussi, mais il jouait beaucoup au travers. Moi, je me rappelle l'avoir vu souvent. Paolo Radoni joue au travers.
Oui, c'est vrai. On allait souvent à la Jam du lundi soir, en fait.
Mais il me semble quand même que le sound dans cette ambiance italienne n'est pas tout à fait déplacé. Alors, moi, je me suis toujours demandé, Brigitte Furnell, si la mélodie de Trapèze, il ne l'avait pas piqué quelque part. Parce que la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ah oui, c'est quoi déjà ça? Et puis je regarde sur le disque, je vois composition Paolo Radoni. Et donc, non, sans doute que non, mais non, c'est tellement évident.
Ouais, je ne sais pas dans quelles circonstances il a écrit ce morceau.
Alors, c'était pour Hotel Love en 82. Hein. J'ai Hotel passé Love. Du temps hier soir à retrouver tout ça. Et c'était un quintet avec Charles Dodos. Et ça, c'est aussi un côté sympathique du disque, c'est que des musiciens qui avaient joué avec lui sont sur ce groupe. Enfin, il y a très peu de gens qui sont là par hasard. Ben Sluys avait fait un quartet avec lui. Gino, évidemment. Ben voilà. Gino. Donc, ce sont tous des gens qui connaissaient Paolo et qui ne sont là, vraiment pas là par hasard. Mais qui a fait le casting? C'est Brigitte, sans doute.
Oui, oui. En fait, je pense qu'au départ, j'ai pris contact avec, évidemment, Paolo Loveri, qui était très, très proche de Paolo et qui était son assistant au conservatoire. Et puis assez rapidement avec Michel R, avec mon frère un peu comme coach, parce que je me disais, mais à qui je peux me confier, avec ce projet que j'avais en tête. Et puis alors, de fil en aiguille, à quatre, on a un peu cherché avec qui travailler. Assez vite, j'ai pensé à Charles Loos. Parce que Paolo et Charles Loos travaillaient énormément ensemble dans les Sweet Substitutes. Et avec Paul Dubois, je pense qu'ils avaient une longue carrière ensemble, se croisaient depuis des années et des années. Et alors, donc j'ai pensé à Ben Sluys qui jouait sur
Coast to Coast.
Et Paolo aimait énormément sa musique. Et donc Bardenolf est venu se proposer par la suite. Christelle, Paolo avait écrit une chanson pour elle.
Let me hear a single song, magnifique chanson. Elle commence demain le concert anniversaire du Grand Jazz par ce thème de Paolo Radoni.
Ouais,
donc on attend ça avec impatience quand même, hein, parce que c'est un standard en puissance. Et la semaine dernière, mais je pense que vous étiez en studio, on a eu une promesse de Paul Huygens qui organise le concours de jazz vocal à Bruxelles chaque année et que ce serait l'imposé du concours de cette année-ci. Donc au mois de septembre, il y a des musiciens américains, norvégiens, que sais-je, qui vont avoir comme imposé Let Me Hear a Simple Song. Et si Paul l'a oublié, on lui rappellera demain, ça tombera bien. Et je pense qu'il ne pourra pas se dédire. Je pense qu'il le faisait sincèrement, d'ailleurs. C'est lui qui l'a proposé, encore une fois. Alors, écoutons cette mélodie. Moi, je trouve magique. Et je me suis toujours demandé, et si quelqu'un la connaît par ailleurs, et c'est d'un autre compositeur qui aurait inspiré Paolo, ça m'intéresse de le savoir, mais j'ai bien l'impression qu'il était quand même assez honnête, il l'aurait signalé. Donc, ça s'appelle Trapèze. Thank you. Quel charme, hein, c'était la composition Trapèze, Paolo Radoni, dans la nouvelle version, avec Paolo Loveri qui est avec nous, qui est guitariste de ce nouvel album, dans la Radoni's Tribe. C'est un duo avec Charles Laws. Et il y a des belles paroles dans le livret en face de la présentation de Daniel de Brucker, qui dit le Paolo Blues. Il dit pas d'effigie pour marquer son tombeau, ou alors cette espèce de rien partout où il n'est pas, dans l'air vide. On va s'arrêter là, c'est plus long, hein, mais c'est une belle idée, c'est magnifique. Et la musique, c'est un peu ça. On y est, ça existe un moment, et on a l'impression que ça n'existe plus. En fait, si, le silence continue à faire travailler la musique. Voilà pour signaler la participation de Daniel de Brucker. Ils étaient amis avec Paolo ?
Oui. En fait, avant que Daniel ne parte à Paris pour travailler pour Le Monde et puis pour écrire ses romans, on se fréquentait très très fort. Ils étaient très proches. Je pense que Daniel a apprécié énormément la musique de Paolo. Daniel de Brucker, on est resté en contact. Maintenant, Daniel de Brucker habite en Normandie. Et dès qu'il a appris le décès de Paolo, il a écrit ce texte que Denis Vanek a mis en musique avec Frank Woods. Il le joue dans les concerts de musique flexible. Et donc, Daniel a écrit une longue liste de poèmes pour Paolo. Il y a ce Paolo Blues, il a écrit Elegia. Et donc, il m'a transmis tout cela.
Extraordinairement riche, coloré, intelligemment illustré. Il y a des dessins. Et alors, il y a une guitare transformée. Ça doit plaire à Paolo Loveri. Hein, transformée en objet de désir magnifique, là. Hein, et donc, c'est impossible de décrire ça en restant dans les limites de la bienséance. C'est érotique, c'est pas pornographique. Mais il y a toujours ce fantasme-là de la guitare comme femme.
Je sais pas si Paolo marchait dans ce plan-là. Elles ont des belles hanches et des belles courbes. Donc, c'est clair. Oui, que c'est une métaphore tout à fait charmante de la guitare.
Il en pince pour la guitare et ça illustre skin to skin. Donc, ce n'est pas par hasard, évidemment, que vous avez choisi de mettre ça en regard. Alors, on va écouter cet arrangement de Michel Lair, skin to skin. Alors ça, il existait déjà un arrangement parce que moi, j'ai entendu, il était venu le jouer ici à la RTBF, d'ailleurs, avec le Bruno Castellucci.
String Tet,
oui. Qu'avez-vous travaillé Donc, il y a une partie du boulot qui était fait, mais c'était pour des cordes. C'est assez différent.
Oui, absolument. Disons, comme la plupart des morceaux, je suis d'abord parti des enregistrements existants. Les partitions existent parfois, mais parfois, elles demandaient quand même à être mises à jour, parce que les enregistrements de Paolo sont parfois une maturation de ce que la partition originale était. Ici, la partition n'était pas vraiment disponible entièrement. Il manque des bouts. Donc, fatalement, j'ai dû déchiffrer ça à l'oreille. Et un peu utiliser la quintessence de ce que les cordes faisaient pour les transposer du côté des souffleurs.
Comment on décide qui va être soliste c'est vous, Michel, qui avez décidé que ça irait bien pour tel ou tel instrument?
Bon, comme je disais, on en a une discussion à ce sujet-là. Les gens ont dit, voilà, ça me convient bien, je suis partant pour ce morceau-là. Puis par ailleurs, moi aussi, dans mes arrangements, je crois que, suivant le caractère des morceaux, ça s'imposait de donner un solo à l'un plutôt qu'à l'autre. Non, on a beaucoup discuté.
Vous n'avez pas fait l'arrangement en pensant aux musiciens ou...
Si, justement.
Ah,
si.
Voilà.
Mais oui, les deux, enfin, par une discussion, et puis en fonction de ce qu'il était dit, on adaptait.
Skin to Skin, nouvelle version, et ce disque sortira officiellement lors du concert au Sound ce vendredi. Skin to Skin, composition Paolo Radoni. Michel Herr me dit « Je n'ai échangé aucun accord ». Et Brigitte Furnel me dit « En effet, Paolo Radoni était très précis quand il voulait un accord. C'est parce qu'il avait longuement réfléchi à la chose. » Mais évidemment, si c'est un disque de Michel Herr, il y aurait des développements et il y aurait des choses qui permettraient peut-être qu'en concert, un jour, vous ferez ça. On ne sait jamais.
Hein, oui, mais ici, l'idée, c'était d'abord de rendre hommage à Paolo et à l'esprit de sa musique. Sa musique n'est peut-être pas aussi connue que certains grands standards. Donc d'abord, redonnons de manière concentrée sur un disque comme celle-ci une image assez fidèle et en même temps avec la touche personnelle de chacun.
Alors je vais poser une question à la heptaxie à Paolo Loveri. Est-ce que vous avez pensé au style de Paolo Radoni pour faire vos improvisations?
Est-ce
que vous avez pensé au style de Paolo Radoni pour faire vos improvisations?
Non, pas vraiment en fait, parce que j'ai même pas écouté les versions originales. C'est parce que je voulais pas me faire être influencé par ça, je voulais vraiment faire ça le plus naturel possible à ma façon de jouer. Et après, ça ressemble un peu à la façon de jouer de Paolo, parce que je l'ai eu comme prof pendant 5 ans en fait. Donc ça devient...
Je crois que ça sonne comme Paolo Loveri, 100%, je te rassure.
Ah oui, ok. Si tu me le dis en fait,
J'avais peur que je lui demande s'il était un bon guitariste. Donc c'était ça ce qui a marqué cette émission définitivement. Hein. Êtes-vous un bon guitariste? Bon, alors on va écouter, je pense qu'on va terminer par là parce qu'on n'aura pas le temps d'écouter grand-chose d'autre aujourd'hui, mais on reviendra à ce disque parce qu'il y a tellement d'autres facettes. Hein. Vous avez parlé, j'avais plus entendu ce mot-là, musique flexible. Donc Brigitte, oui. Vous avez mentionné ça tout à l'heure. Et on retrouve un peu Frank Waits, Denis Vanek, à la fin de cet album-là, il y a Milano Percaso qui est joué par eux.
Oui, c'était un petit clin d'œil qu'on faisait... la façon dont a arrangé Milano Percaso, Frank Waits, c'est vraiment très chouette, c'est très ouf et c'est très travaillé en même temps. Mais vraiment, je trouve c'est chouette, c'est gai pour terminer ce disque. Quoi.
Avec la carte et Milan sur la carte, c'était la région dont la famille venait ou bien...
Mais il a fait ses études de sociaux à Milan et puis... Caso, c'est un village près de Milan. Et donc, il a vécu pendant 4 ans à Milan. Sur la carte, il y a Marotta aussi, Sénégalia, Ancona, où on allait en vacances en Italie.
La première photo du livret, où on le voit dans la montagne, là, c'est la montagne, j'en sais rien, c'est peut-être une colline. Hein. Ça ressemble assez bien à l'Italie, mais c'est peut-être pas ça.
Oui, c'est dans la région des Marques, d'où il est originaire. Donc, c'était une photo qui a été prise pendant qu'il était en train de penser, de philosopher, de méditer dans la montagne.
On en avait parlé la semaine dernière. Il avait fait un concert au Gomme Jazz Festival qui était assez philosophique dans l'enchaînement des morceaux. Mm-hmm. Je pense qu'il lisait vraiment les vieux Grecs qu'il aimait bien, apparemment. Hein.
Mais en fait, il avait lu Socrate, Le Banquet, Platon. Il lisait, il avait lu Dante dans le texte. Je trouvais ça extraordinaire. Il avait lu Hegel, Marx. Il y avait une culture, en plus une culture sociologique éminemment importante, Lévi-Strauss. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, encyclopédique. Mais il s'intéressait aussi à la psychanalyse. Il piquait tous mes bouquins, c'était l'horreur, quoi. Enfin bon.
Alors on va écouter ce beau thème pour la fin de l'émission, c'est Let Me Hear a Simple Song. Rendez-vous demain pour le grand jazz 10e anniversaire avec Christelle Wautier qui nous a promis de chanter ce morceau. Je pense que ce sera l'ouverture du concert. Christelle qui aura certainement une petite boule dans la gorge, mais on essaiera que ça se passe le mieux possible. Et ce classique en puissance. Là aussi, travail de Michel Herr sur Let Me Hear a Simple Song.
Oui, absolument. Mais là, on est 7, donc obligatoirement. Un petit peu d'organisation et puis respect aussi de l'original. Mais une petite touche, petite intro, petite finale, et les backgrounds. Et
ça, c'était tout récent, Brigitte. Il avait déjà cette composition depuis longtemps ou bien il a...
Ah non, ça, c'est tout récent. Donc, il a écrit pour Christelle, je pense, un an avant. C'est la toute dernière composition qu'il a écrite.
C'est presque un résumé de la pensée qu'il pouvait avoir sur la musique, de son regard sur la musique.
Oui, je pense qu'au fil du temps, il a voulu épurer sa musique, vraiment.
C'est très important, il a écrit les textes de la chanson.
C'est l'intérêt aussi.
C'est qui est très rare, en fait. Presque un musicien de jazz a fait écrire un texte et la musique.
Presque un testament musical qui nous a livré.
Tout à fait.
Là. Et c'est sublime. Voilà, on écoute ça et on se quitte. Et donc, rendez-vous vendredi avec vous au Sounds pour la Radonistra et Michel. Je suis sûr que vous serez là.
Soutenir les copains.
C'est votre enfant aussi, quand même.
Bah, oui, quand même.
Alors, on espère que.
Il y a beaucoup de travail.
Qu'il n'y aura pas qu'un concert. Voilà.
Il y en a d'autres prévus.
Très bien, ouais. Parfait. On en reparle. Merci, passez une bonne soirée avec Musique 3. Rendez-vous demain à 18h30.
Let me hear a simple song come right out of your heart. Just the sound of your soul is what I want to hear. You don't need a million notes, just an easy melody and a story anyone can understand. A whisper or just a sigh, the sound of your days as they go by. Feeling blue in the morning and smile in the afternoon. Isn't that what our music is all about? Let me hear the quiet song of our nights and our days. Simple song of time, the song of life. Smile. Let me hear the quiet song of our nights and our days. The simple song of time. The song of life.